Il voyait ce fils, son projet de statuaire, son rêve interrompu. À ma naissance, c'était Simon que l'on avait déposé encore une fois dans ses bras. Le rêve d'un enfant qu'il allait former à son image. Ce n'était pas moi, balbutiement de vie, brouillon, dont n'émergeait aucun trait reconnaissable. Avait-il pu dissimuler sa déception aux yeux de ma mère? Avait-il pu s'arracher un sourire attendri en me contemplant? Tous mes proches savaient. Tous avaient connu Simon, l'avaient aimé. Tous avaient en mémoire sa vigueur, son autorité, et tous me l'avaient tu. À leur tour, sans le vouloir, ils l'avaient rayé de la liste des morts comme de celle des vivants, répétant par amour le geste de ses assassins. On ne pouvait lire son nom sur aucune pierre. Il n'était plus prononcé par personne, pas plus que celui d'Anna, sa mère. Simon et Anna, effacés à deux reprises, par la haine de leurs persécuteurs et par l'amour de leurs proches. Aspirés par ce vide dont je n'aurais pu m'approcher sans risquer le naufrage. Un silence rayonnant, soleil noir qui ne s'était pas contenté d'absorber son existence, mais avait aussi recouvert toute trace de nos origines. Simon. J'étais sûr que j'avais marché moins tôt que lui, prononcé mes premiers mots des mois après les siens. Comment aurais-je pu me mesurer à lui? Troublé par le plaisir que je retirais de cette défaite, j'en cultivais la satisfaction morbide. Je capitulais devant mon frère, mon ventre contre le matelas, son pied sur ma nuque. Et c'est Louise qui m'avait fait le rencontrer. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre son fantôme apparût dans cette brèche, qu'il surgît de ses confidences. Ma découverte du petit chien de peluche l'avait arraché à sa nuit, et il était venu hanter mon enfance. Sans ma vieille amie, peut-être n'aurais-je jamais su. Sans doute aurais-je continué à partager mon lit avec celui qui m'imposait sa force, ignorant que c'était avec Simon que je luttais, enroulant mes jambes aux siennes, mêlant mon souffle au sien, et finissant toujours vaincu. Je ne pouvais pas savoir qu'on ne gagne jamais contre un mort.
Partie 4.
J'ai ajouté de nouvelles pages à mon récit, nourries par les révélations de Louise. Une seconde histoire est née, dont mon imagination a rempli les blancs. Une histoire qui ne pouvait cependant effacer la première. Les deux romans cohabiteraient, tapis au fond de ma mémoire, chacun éclairant à sa façon Maxime et Tania, mes parents, que je venais de découvrir. Maxime épouse Anna, un beau jour d'été, sous un ciel sans menace. Après avoir signé le registre de la mairie, ils se rendent à la synagogue. Joseph est ravi d'assister à l'union du dernier de ses trois enfants. Les parents de la mariée sont présents, eux aussi, accompagnés de Robert, le frère d'Anna, et de son épouse, Tania. Ils ont enfin rencontré leur beau-frère Maxime, dont Anna avait tant de fois fait l'éloge dans ses lettres. Dès le lendemain, ils reprendront la route pour Lyon. Les parents de la mariée ont réservé pour le déjeuner l'arrière-salle d'une brasserie de la République. Les places se sont succédées jusqu'à ce que les convives éprouvent le besoin de secouer leur torpeur. On a loué les services d'un trio de musiciens, violons et accordéons réveillent l'assemblée. Sur le parquet ciré, les costumes sombres des hommes enlacent les robes fleuries des femmes. On oublie la chaleur et l'on s'envole au rythme de l'orchestre. Mazel tov ! Tout le monde félicite le jeune couple, on brise des verres, on fait des moulinets avec les serviettes. Les plus vigoureux des hommes portent le mari en triomphe sur un siège. Maxime aurait aimé se dispenser de ces manifestations traditionnelles, mais il s'y prête de bonne grâce. Il a cédé à l'insistance de sa belle famille et a accepté le mariage religieux. Dès son adolescence, il s'est employé à faire oublier ses origines et n'apprécie guère qu'on les lui rappelle. Il s'efforce de participer, sourit à tous, se prête au cérémonial par respect pour sa jeune femme et sa famille. Depuis sa bar mitzvah, passage obligé qu'il n'a pu refuser à Joseph, il a toujours évité de se joindre aux réjouissances des fêtes. Le seul culte auquel il est sacrifié est celui de son corps. Il y a consacré tout son temps libre, ne s'imaginant pas le vendredi soir à la lueur des chandelles priant et partageant le repas traditionnel du Shabbat avec les siens. Il atteint la trentaine. Son mariage, espère-t-il, marquera la fin de sa quête éperdue de rencontres. Conquête facile, chair consommée dans la nuit, dont le charme se rompt dès le petit matin. La grâce et la fragilité d'Anna l'ont séduit. La situation prospère de sa belle famille n'a pas été pour rien dans sa décision. Il a épuisé ses plaisirs de célibataire et ressent pour la première fois le désir d'être père. Les parents d'Anna sortent de leur voiture. Ils ouvrent la portière à la jeune mariée qui fait son apparition devant la mairie, un voile transparent sur les cheveux, un bouquet de fleurs fraîches dans les bras. Maxime s'avance pour l'accueillir, son haute forme à la main. Elle le regarde. Son émotion est perceptible à la pâleur de ses joues, au léger tremblement de ses mains. D'autres voitures se sont garées à proximité. Les invités en sortent, des hommes en costume, des femmes en robe claire ou en tailleur. Maxime guette l'arrivée de Robert et de son épouse, Tania. Anna lui a souvent parlé de son frère, le jeune homme au sourire insolent. Elle lui a aussi avoué son admiration pour sa belle-sœur, athlète accomplie, nageuse émérite et plongeuse de haut vol. Ils arrivent. Robert est tel qu'Anna le lui avait décrit. Cheveux courts et ondulés, un éclair rieur dans les yeux. Mais Tania est la plus belle femme que Maxime ait jamais vue. Longue et fine silhouette, vêtue d'une robe fleurie, une cascade de cheveux noirs retenus par un fin ruban et un sourire radieux. Sa poitrine se déchire. Une telle beauté lui est douloureuse. Loin d'éclairer la fête, elle vient l'assombrir. L'éclat de cette femme lui brise le cœur. C'est le jour de son mariage, celui où il unit son destin à Anna, et il est foudroyé par cet éclair d'été. Il cherche le regard de celle qui va devenir son épouse et la conduit vers la mairie. Bouleversé par Tania, il tente de se rassurer. Le séducteur qui sommeille en lui se manifeste sans doute une dernière fois. Quelques mois auparavant, son désir aurait balayé tous les obstacles. Il aurait tout entrepris, tout détruit s'il le fallait pour que cette beauté soit à lui. Dans la salle des mariages, familles et invités sont rassemblés derrière le jeune couple. Foule bruissante d'où s'échappent des rires, des sanglots étouffés. Maxime et Anna échangent leurs alliances et s'embrassent sous les applaudissements. Ils s'approchent de la table pour apposer leur signature sur le registre. Maxime traverse ces instants dans un brouillard. Il tourne la tête vers l'assemblée pour sourire à tous. Il ne devrait pas rechercher ce visage, sachant qu'une fois encore, il en sera ébloui. Tania est assise à côté de son mari, la tête inclinée. Il fixe quelques secondes celle dont la vision a tout balayé. Un simple regard, une intention à peine perceptible, aux conséquences incalculables. Et si ce regard était surpris? Mais les invités, tout à leur émotion, se sourient et parlent d'entre eux. Alors ils ne voient plus que Tania. Quitte la cérémonie, oublie sa famille, ses invités. Il fixe la jeune femme, jusqu'à ce qu'elle entende enfin son appel muet et relève la tête. Ses boucles noires glissent sur sa robe, s'ouvrent comme un rideau sur ses yeux. Il soutient son regard, une seconde de trop. Puis il se détourne pour signer à son tour le registre. Il ne veut pas penser à l'injure qu'il fait à Anna, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus les honorer. Un peu plus tard, pendant que le timbre grave du cantor résonne sous les voûtes de la synagogue, il lève les yeux vers le balcon où se sont installées les femmes. Tania est au premier rang, paupières baissées. La jeune femme a sans doute oublié son premier regard, mais il la fixe, une fois encore. Elle ouvre les yeux traversés par le même éclair de surprise. Plus rien n'a d'importance. L'absurdité de son comportement rend son hommage plus brûlant. Tout se joue dans l'instant. Tania est la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. Il ne peut la laisser s'échapper sans le lui avoir fait savoir, par ce regard appuyé. Au restaurant, suffisamment éloigné d'elle, Maxime aura le temps de se ressaisir. Il fera honneur à chaque plat, bavardera gaiement avec ses voisins de table. Il dansera avec Anna, avec sa belle-mère, invitera la plupart des femmes de l'assemblée. Mais il évitera la proximité de Tania. Le contact de son corps sous le tissu léger de la robe, le parfum de sa nuque, la caresse de ses cheveux. Lorsqu'enfin les invités se sépareront, il ressentira un véritable soulagement. Tania et son mari repartent pour